Ce podcast est soutenu par Villa Finder, spécialiste de la location de villas de rêve en Asie, reconnu pour son approche très qualitative, garante de séjours réussis. Un service de conciergerie est disponible avec chaque location pour vos envies de massage, babysitter ou dîner à la villa par exemple. Bref, vous pouvez compter sur eux pour l'organisation de votre prochain voyage en Asie et n'oubliez pas de mentionner sur les routes de l'Asie lors de votre réservation car non seulement un arbre sera planté à cette occasion et vous profiterez d'une réduction spéciale de $50 sur le montant total. Retrouvez-les sur villa-finder.com et merci à eux. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 60, l'Asie des volcans, deuxième partie. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et aujourd'hui je vous présente la suite et fin de mon interview du célèbre volcanologue Jacques-Marie Bardenzeff sur les volcans d'Asie. Alors si vous avez raté la première partie, je vous invite à courir l'écouter de ce pas. On y parlait des phénomènes volcaniques du continent et de quelques-unes des éruptions historiques qui ont eu lieu. Dans cette seconde partie, on discute davantage de l'activité en cours avec quelques réflexions sur le changement climatique et la relation que l'homme entretient avec les volcans. Bref, que du bon pour tous les amoureux de l'Asie et de la planète, tout simplement. L'interview redémarre juste là où elle s'était arrêtée dans l'épisode précédent. Et bonne écoute. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe en ce moment, puisque ça n'arrête jamais, de toute façon, la volcanologie. Les éruptions, ce n'est pas que dans le passé, c'est dans le présent et c'est dans le futur aussi, on le sait. Et en ce moment, il se passe pas mal de choses. Alors aujourd'hui, là, on est en juillet 2018. Je suis allé sur le site Volcano Discovery qui maintient en temps réel une carte des éruptions en cours, en tout cas là où ça gronde, là où ça bouge. Et j'ai vu que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en Asie. Donc j'aimerais qu'on commente quelques-unes de ces éruptions qui sont en cours ou à craindre. Je dis bien à craindre parce qu'on ne peut pas prédire tout ce qui va se passer. Même si la science fait d'énormes avancées, on ne peut pas dire quand et comment une éruption va se produire. Mais voilà, en ce moment, il se passe des choses en Indonésie, il se passe des choses au Japon et en Russie, entre autres, et aux Philippines. Mais peut-être parler de ce qui se passe en Indonésie pour commencer avec le Sinabung, qui a commencé il y a quelques années à faire des nuées ardentes extraordinaires et qui d'ailleurs peut être observé. Je crois qu'il y a, il y a un peu de tourisme qui s'est développé autour de ça. On peut, à quelques kilomètres, aller observer ces nuées ardentes incroyables. Parle-nous de ce qui se passe là-bas sur Sumatra.
Oui, l'actualité volcanique, elle est souvent riche. Hein. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'en moyenne, il y a 50 éruptions par an sur les continents. Je ne parle pas des éruptions sous-marines. Hein. Donc 50 éruptions par an sur les continents, dont la moitié en Asie. Voilà. Alors en ce moment, à un moment où on parle, là, il y a des éruptions importantes, notamment à Hawaï. Hein. Il y en a eu au Guatemala, il y a eu le Fuego, mais l'Asie également est aux premières loges. Donc c'est vrai que le Sinabung, donc, qui est à Sumatra, en Indonésie, est un volcan qui était calme pendant un gros siècle ou pas. Puis il s'est réveillé en 2010, il a commencé à faire des nuées ardentes, à être explosif, à menacer. Puis il s'est rendormi 3 ans. Et puis depuis 2013, il n'arrête plus. Donc depuis 2013, on va dire quasiment quotidiennement, il produit des nuées ardentes. Donc il y a un gros dôme de lave visqueuse qui est sorti, qui explose périodiquement. Et donc ces nuées ardentes, elles parcourent, comme tu l'as dit, plusieurs kilomètres. Elles détruisent, elles tuent. Il y a eu donc plusieurs fois de suite quelques unités de victimes, parfois une dizaine, parfois plus. Donc au total, maintenant, on en est peut-être à 30 ou 40 victimes de paysans qui travaillent dans leurs champs. Alors bien sûr, donc maintenant, il y a une zone de sécurité qui a été tracée, un cordon de sécurité. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus empêcher les gens de vivre. Donc c'est très difficile parce que c'est leur gagne-pain. Ils ont leur ferme, ils ont leur culture. Donc ils vont quelque part faire des récoltes, tout ça. Et c'est vrai que cette éruption ne continue maintenant depuis 2013. Donc ça fait 5 ans. Alors on peut effectivement l'observer. Hein, donc il faut faire attention parce qu'une nuit ardente, ça ne pardonne pas. On ne peut pas aller trop près. Mais c'est vrai que moi, j'y suis allé en 2015. J'avais emmené un couple de passionnés avec 80 jours voyage, qui est une agence qui est sise à Lyon, mais qui je collabore régulièrement. Et c'est vrai qu'on avait eu quasiment une nuit ardente impressionnante par jour. Et quand on est à une distance correcte, on peut l'apprécier, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on voit le développement, on voit cette matière lourde. Alors ça avance vite, mais vu de loin, ça ne fait pas si vite que ça, quoi. C'est quand même entre 100 et 200 km/h. Mais bon, effectivement, si on est trop près, bon, on ne s'échappe pas, quoi. Donc c'est effectivement un volcan. Alors maintenant, on en parle beaucoup moins parce que c'est rentré dans les mœurs. On dit, voilà, alors t'entends que s'il y a une éruption plus importante, si le panache monte à 8 km au lieu de 6 ou au lieu de 4, bon, ben, on le signale, mais on va dire que le Sinabung est parti. Il faut savoir que ce genre d'éruption, quand ça commence, ça peut durer plusieurs années. On a vu la Soufrière de Montserrat qui a été en éruption pendant presque 18 ans. Une éruption explosive comme ça. Donc là, le Sinabung est parti pour ce rythme-là.
Bon, ben, on suivra ça. Il y a aussi une éruption qui a commencé en novembre 2017, donc il y a quelques mois, qui a fait beaucoup de bruit parce que c'était sur l'île de Bali. Et l'île de Bali est ô combien touristique. Et je crois que la dernière éruption du mont Agung, dont on va parler, c'était en milieu du XXe siècle, je crois, en 1960 et quelques. Donc ça fait un moment. Et finalement, le monde moderne n'a jamais vraiment vécu d'éruption à Bali. Et voilà, beaucoup d'indices, d'activités, des éruptions, rien pendant quelques mois. Et là vraiment, littéralement, il y a 3 jours, ça s'est réveillé. Et il y a 2 jours, ça s'est recalmé à nouveau. Donc, est-ce que tu suis un petit peu, est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe en ce moment à Bali? Parce que bah, ça intéresse beaucoup de gens, parce qu'ils veulent, ils prévoient peut-être un séjour à Bali, mais aussi parce que voilà, c'est un volcan qui, je crois, pourrait faire très très mal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Lagung?
Oui, alors Lagung aussi, c'est un volcan de référence, hein. Alors la référence, c'est 1963. Il y a eu une éruption majeure qui avait fait des nuits ardentes, qui avait fait des victimes, je crois plus d'un millier. Hein. Donc c'est un volcan qui est craint, qui est déifié mais qui est craint, ça les deux vont ensemble. Et il s'est réveillé, alors il a commencé à se réveiller brusquement, enfin il a commencé à se réveiller, non, il a commencé à avoir des indices de réveil dès le mois de septembre dernier. Donc il y avait beaucoup de séismes, des vibrations, donc l'alerte a été progressée. Alors en Indonésie, il y a 4 seuils d'alerte, de 1, 2, 3, 4, hein. Et donc, rapidement, Lagung est arrivé en risque 3, parce qu'on s'attendait à une éruption majeure. Et moi, à l'époque, je partais avec mes étudiants dans les Alpes et en Auvergne, et je me disais, bon, ça va exploser du jour au lendemain. Donc, je suivais ça à un moment des pauses. Puis j'étais moi-même interviewé parfois par France Info ou autre sur le terrain. Je répondais comme ça. Et puis ça a duré 2 mois, septembre, octobre, il s'est rien passé. Donc, les gens s'attendaient à un big one, à un big bang. Il s'est rien passé. Puis c'est vrai que courant mi-novembre, il y a eu quand même des explosions importantes avec des panaches qui sont montées à plusieurs milliers de mètres de hauteur. Suffisamment pour créer des problèmes au niveau des avions. Donc il y avait bien sûr une zone de sécurité qui avait été mise en place par les autorités, qui avait élevé le risque au niveau 4, hein, donc maximum. Donc ça a été quand même une bonne dizaine de kilomètres d'interdiction. Mais toutes ces cendres, ces panaches, avaient bloqué des aéroports internationaux ou nationaux. Et c'était des milliers de personnes qui étaient bloquées, quoi. Donc Bali, effectivement, qui voit venir beaucoup de touristes, et on les comprend, parce que c'est une île magnifique, hein, a été un peu isolée, coupée du monde. Et puis alors, les gens n'osaient plus venir. Les compagnies australiennes et autres annulaient des vols. Donc ça a duré plusieurs semaines comme ça, puis ça s'est un peu rentré dans l'ordre, donc ça a recommencé. Mais le volcan ne dort que d'un œil, donc voilà, il peut reprendre. Donc là, on est le 2 juillet aujourd'hui, ça fait depuis 2-3 jours qu'il a refait une activité. Il y a du rougeoiement le matin et le soir, donc c'est que le magma serait pas loin. Il y a des anomalies thermiques, un panache qui monte à 2-3 km, mais bon, c'est pas énorme non plus. Donc ça peut se rendormir encore pendant 3 mois, ça peut repartir. Donc puis ça peut s'endormir après pendant 15 ans, reprendre. Ces volcans explosifs n'ont pas de règles, mais j'en comprends bien que tous les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent, qui doivent aller à Bali ou autre, sont un peu interpellés. Moi-même, j'ai ma filleule qui doit y aller cet été, hein. Elle m'a demandé mon avis. Je lui ai dit, vas-y, sinon on ne fait plus jamais rien. Hein. Effectivement, pire, c'est de rester bloqué. Mais enfin, bien sûr, ne pas s'approcher du volcan, mais on ne peut pas ne pas aller à Bali non plus, parce que sinon, on ne ferait plus jamais rien. Donc, ce volcan, effectivement, il est encombrant. Puis il y en a un autre qui s'appelle le Batur, hein, qui, lui, pour l'instant, n'est pas en éruption, mais qui est pas très beau à visiter. Donc voilà, donc un volcan à suivre, faire confiance aux autorités qui, elles, ont les appareils qui enregistrent les séismes, qui enregistrent les anomalies thermiques, qui décréteront si on peut venir ou pas. Et puis ça peut à l'échelle. Il faut savoir qu'un volcan vit à l'échelle géologique et que 2 mois pour nous, c'est énorme, c'est le temps des vacances. Enfin, des vacances à venir, mais que 2 mois pour un volcan, c'est l'équivalent d'une nuit de sommeil pour nous, quoi. Voilà, donc voilà, il faut respecter le volcan. Faire avec, ça peut s'emballer dans les jours qui viennent, ça peut repartir pour un an sans rien du tout. En tout cas, Lagung, pour l'instant, n'a pas dit son dernier mot, et il y a du magma qui n'est pas encore sorti.
Et est-ce que les avancées scientifiques dans la volcanologie peuvent nous permettre, si ce n'est de prédire avec précision, mais du moins d'avoir un indice sur ce qui peut se passer dans les mois qui viennent, ou est-ce que vraiment on est aveugle à ce niveau-là? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, si on compare 2018 à il y a 20 ans, à il y a 50 ans, on en sait beaucoup plus, on a plus d'instruments de mesure. Est-ce qu'on peut un petit peu prédire ou pas du tout? Est-ce qu'on est toujours encore à la merci des éléments sans avoir aucune visibilité là-dessus?
Alors, il y a des bonnes prévisions, mais qui se font à court terme. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut prévoir une éruption 48 heures avant, 72 heures avant, parce que quand le magma monte, le volcan gonfle, donc il se dilate, ça se mesure très bien, des anomalies thermiques. Puis également, le magma, il toque le volcan lui-même, donc ça fait des chocs, ça fait des micro-séismes. Donc, quand un volcan commence à avoir plusieurs centaines de micro-séismes, alors qu'ils sont imperceptibles, hein, des micro-vibrations qui ne sont pas dangereuses en tant que telles, mais quand un volcan est le siège de plusieurs centaines de micro-séismes par jour, c'est qu'une éruption est quasiment inéluctable. Donc c'est ce qui a été apparu à l'automne dernier, mais ça n'a pas eu lieu. C'est pas que les volcans se sont trompés, c'est que le magma s'est arrêté en cours de route. C'est que effectivement, quand le magma est à moins 5 km et qu'il passe à moins 4 et qu'il passe à moins 3, à un moment on se dit là maintenant dans 48 heures il peut sortir, donc on évacue les gens. Puis s'il s'arrête à moins 2, à la limite tant mieux. Mais on peut pas reprocher aux volcanologues d'avoir évacué les gens. On peut pas attendre que le magma soit à moins 100 mètres. Puis écoutez, il y aura une éruption dans un quart d'heure, ça n'intéresse plus personne. Voilà, donc il faut comprendre qu'il y a une population, des habitants, ils ont à gérer leur temps, leur travail, on ne peut pas les évacuer pendant des mois et des mois, on ne peut pas non plus attendre 10 minutes pour dire à une éruption pour les évacuer, donc en général on évacue 2-3 jours avant, et ça permet que les gens sont sauvés. Pour l'instant à Bali, quand même l'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes. Hein, donc c'est quand même à mettre au crédit des volcanologues indonésiens, même s'il y a eu des évacuations peut-être par certains pensent trop ou pas assez, on peut toujours discuter a posteriori, c'est toujours facile de refaire l'histoire quand on a vu ce qui s'est passé, mais c'est vrai que moi-même j'avais donné des interviews, plusieurs interviews à la radio et à la télévision, j'étais d'accord qu'il y avait un risque majeur à Bali, on ne pouvait pas laisser des gens avec une telle épée de Damoclès, donc l'évacuation était justifiée, et pour l'instant le fait qu'il y ait zéro victime, c'est la plus belle victoire qu'on puisse avoir nous tous. Alors maintenant, effectivement, c'est à suivre. Alors par contre, maintenant, l'état de crise est tel que on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois ou deux. Donc là, il n'y a pas d'éruption a priori majeure dans les 24 heures qui sont prévues, là, puisque comme tu l'as dit, ça a plutôt tendance à se calmer. Mais qu'en sera-t-il dans une semaine? Ça peut arriver très vite. Donc c'est vrai que ça peut se remettre en marche mi-juillet ou fin juillet ou mois d'août ou à la rentrée, ou ça peut se rendormir 15 ans. On n'a pas, on peut pas prévoir une éruption un an d'avance. Et quand bien même on la prévient un an d'avance, ça intéresserait personne. Ces gens diraient, bon, dans un an, on a le temps de voir venir, on fait ci, on fait ça. Donc c'est vrai que les délais humains, c'est quelques jours, parce que les gens ont le temps de partir, bien sûr, en emportant le maximum de choses, au moins en tout cas, la famille au complet, les animaux domestiques, si on peut. Trop long, ça n'a pas d'intérêt non plus, parce que c'est pour dire, c'est dans un an, il y aura une éruption, mais à 10 jours près, ça n'a pas d'intérêt au niveau humain et économique.
Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment l'immédiateté qui intéresse avant tout. Il y a un autre volcan qu'on avait parlé aussi avec Thierry dans le passé, mais c'est le Merapi sur l'île de Java, qui est aussi extrêmement surveillé parce que celui-ci, il fait des éruptions très importantes, des grosses nuées ardentes, mais aussi parce que la population qui vit autour, je crois que plusieurs centaines de milliers, ça dépasse même le million, je crois. La population est très dense autour de ce Merapi. Il a fait une grosse éruption en 2010 qui avait bloqué aussi tout le trafic aérien pendant plusieurs jours. Là, en 2014, il s'était réveillé. Je crois qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, là, il a refait parler de lui. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe sur le Merapi?
Bah oui, le Merapi, ça fait partie de mes volcans préférés, parce que j'ai fait une partie de ma thèse sur le Merapi. Hein. Donc, j'ai été grimpé en 1980. Hein, ça fait déjà un petit bail. Donc à l'époque, il était en belle activité sommitale. Le dôme avait des belles fumerolles, du soufre. Mais on a pu camper 3 jours au sommet. Hein, donc c'était un souvenir important, parce qu'il fait très froid. D'ailleurs, au sommet même, on est sous les tropiques. Mais au sommet du Merapi, le riz gèle dans les gamelles. Hein. Donc c'est vrai que ce volcan, il est craint et déifié parce qu'il est entouré de rizières, de tas de villages. Moi, j'avais logé à Djurandjero, mais effectivement, Yogyakarta n'est pas très loin. Il peut y avoir également des séismes associés. Donc c'est un volcan qui est très, très surveillé parce qu'il est quasiment, on va pas dire au milieu d'une ville, mais au milieu, en tout cas, d'une région très habitée. Donc je le suis parce que, bien sûr, il m'interpelle. Donc pour l'instant, il fait des soubresauts. Pareil, il peut rien se passer pendant quelques mois, il peut reprendre. Mais le Merapi, on sait très bien, il fera des éruptions majeures dans les années à venir.
Et quid de cette théorie que parfois on entend où on dit ce volcan fait une éruption tous les X années parce qu'il tente de se remplir? Quelle est la véracité là-dedans? Est-ce que c'est aussi facile que ça ou c'est pas si simple?
Ah, c'est vrai du point de vue théorique, c'est vrai qu'un volcan c'est un réservoir de magma qui se remplit puis qui se vidange. Simplement il se vidange pas toujours complètement, il se remplit pas toujours pas complètement. Donc c'est vrai que quand on fait des statistiques, ben c'est vrai quand on a un million de personnes, on sait qu'en gros les gens mesurent entre telle et telle hauteur. Bon voilà, sur un million de personnes c'est vrai. Bon, mais quand on a un volcan qui a, on connaît 5 éruptions ou 10 éruptions depuis 200 ans, ben ça n'a pas de valeur parce qu'on dit c'est vrai que si on fait une moyenne, c'est une éruption tous les 20 ans, mais des fois c'est 40 ans, des fois c'est zéro. Puis des fois il y a deux éruptions à la suite. Donc ça n'a pas de grande valeur. On sait simplement que c'est un volcan qui est dangereux, qui est potentiellement dangereux. Les éruptions précédentes nous donnent également une référence pour les éruptions futures. On peut dire si l'éruption à venir est la même que celle de 2010, il se passera telle et telle chose, telle région sera touchée, telle ville sera atteinte, il faudra évacuer telle zone. Donc c'est important de bien identifier et quantifier chacune des éruptions qui pourront servir de référence pour l'avenir. Donc pareil pour le Vésuve, si l'éruption de Pompéi se reproduit, ça fera tel événement, si au contraire l'éruption de 1661, ça fera telle conséquence. Donc pareil, en fonction des éruptions des volcans d'Asie, eh bien, on peut envisager ce qui se passerait si elles se reproduisaient à l'identique.
D'accord. En tout cas, c'est vraiment intéressant de lire ces études, et parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur propre théorie sur les volcans, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, pour la plupart des volcans, on est quand même pas totalement ignorant, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas, j'entendais beaucoup de gens qui disaient que le Merapi, voilà, c'est une éruption tous les 4 ans. Alors c'est vrai que là, il a fait une grosse éruption en 2010, en 2014, il en a refait une, on est en 2018, il rebouge un peu. Donc bon, on a l'impression que c'est ça, mais oui, c'est pas toujours aussi mathématique.
C'est vrai, mais avec une incertitude importante. Mmh. Voilà, c'est sûr que le Merapi est un volcan actif, donc on va dire, mais plutôt que de dire qu'il fait une éruption tous les 4 ans, il faudrait mieux dire qu'il fait 10 éruptions tous les 40 ans. Mmh. Alors à ce moment-là, ça permet de dire qu'il peut en avoir une pendant 2 en 2 ans, puis après rien pendant 6 ans. Et entre 2 et 6, c'est énorme comme délai, parce que les gens, en temps, ils ont le temps de faire 2 récoltes.
Ah oui, tout à fait. Alors voilà, on a parlé de quelques noms, quelques volcans qui bougent, ou en tout cas qui sont à craindre en ce moment en Indonésie pour ce qu'ils pourraient générer. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. On pourrait reparler du Semeru qui parfois, bon lui, il fait une éruption toutes les 30 minutes environ. Il y a aussi le Kawaijen qui a été fermé récemment. Je sais que la mine a été fermée il y a quelques mois. Le lac d'acide chlorhydrique et sulfurique est devenu laiteux. Il y a eu des grondements. Bien sûr, les ouvriers qui vont récolter le soufre ne pouvaient plus s'y rendre. Si on va aux Moluques, il y a le Dukono, je crois, qui bouge aussi. Bon, on pourrait parler de l'Indonésie pendant des heures, mais le temps passe et ce serait bien aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Donc, en dehors de l'Indonésie, en ce moment, est-ce que tu as une ou deux éruptions ou une ou deux activités importantes à nous faire part?
Alors, effectivement, donc, le Japon est régulièrement, avec le Sakurajima, est régulièrement à la une. Moi, je voudrais parler d'une éruption qui a eu lieu en Chine. J'ai visité, qui s'appelle le Shanbaishang. C'est un volcan majeur qui est à la frontière sino-coréenne, entre Corée du Nord et Chine. Donc, il est trois quarts en Chine et un quart en Corée. Et ce volcan fait une éruption majeure vers l'an 1000. Et donc qui a été très importante, et actuellement alors il y avait de la neige, hein, c'était au mois d'avril, visiter les dépôts, et ce sont des dépôts d'ignimbrite, c'est en fait des nuits ardentes pétrifiées sur des mètres d'épaisseur qui ont été recreusés en canyon, donc c'est de l'ordre des piliers, donc un endroit qui s'appelle Volcanic Forest, on a l'impression que c'est une forêt, en fait ce sont des piliers de dépôts volcaniques ciselés par l'érosion, et c'est une éruption effectivement qui est importante. Alors ce Shanbaishang avait refait un début d'activité dans les années 2000, donc vous avez dit, s'il refait l'éruption donc de l'an 1000 en l'an 2000 effectivement, et puis là il est se calme, mais bon pareil il est surveillé, voilà. Et puis effectivement si on parle d'Asie, alors là si on fait un immense bond en arrière, ben c'est dire ce qui s'est passé au Dekan, hein. Dekan c'est en Inde, c'est une éruption majeure qui est datée d'il y a 65 millions d'années. Alors quand c'est une éruption, en fait c'est une phase éruptive qui a duré peut-être 500 000 ans ou 1 million d'années, hein. c'est pas ponctuel du tout. Et donc avec peut-être au milieu des arrêts qui ont peut-être duré des siècles ou des millénaires, puis ça a repris. Et ce Dekan, bah c'est un territoire qui est grand comme la France, qui est recouvert de cendres et de lave, sur 2 km d'épaisseur, et sans compter tout ce qui a été érodé, tout ce qui est parti en mer. Donc ça correspond à une éruption qui est gigantesque, qui a produit des millions de mètres cubes, et des millions de kilomètres cubes, et qui probablement a eu un impact majeur au niveau écologique, Et comme 65 millions d'années, c'est justement la limite entre l'artère secondaire et l'artère tertiaire qui ont été définies par les faunes et flores différentes dans les deux aires, et ben c'est vrai que l'aire secondaire correspond à la fin des dinosaures, à la fin des ammonites. L'aire tertiaire correspond au contraire à l'explosion, à la réussite des mammifères, des plantes à fleurs. Et bien certains pensent que peut-être que l'éruption du Deccan avait fait des telles conséquences climatiques au niveau mondial que ça aurait bouleversé l'écosystème et que ça aurait favorisé ou peut-être même créé ce changement d'air. D'autres pensent que ça serait peut-être une météorite. Les deux sont peut-être vrais et qu'effectivement, une météorite plus un volcan, et bien effectivement, pour les êtres vivants, végétaux et animaux, ben, c'est effectivement catastrophique.
Ouais, ça peut effectivement être cette théorie-là ou une combinaison des deux. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et c'est vrai que le bateau du Deccan, bah, aujourd'hui, c'est la moitié de l'Inde, en fait. Hein. Je crois que c'est la moitié sud de l'Inde, donc c'est un territoire absolument immense.
Oui, c'est ça. On ne se rend pas bien compte. Et puis, c'est vrai que c'est des empilements de coulées. Alors, en fait, on a l'impression que c'est... Il faut savoir que ça s'est fait quand même un certain temps. Hein. Donc, voilà. Donc, entre chaque coulée, s'est-il passé un siècle ou 1000 ans ou au contraire 2 ans? On a du mal à aller. Bien sûr, j'ai des collègues qui datent tout ça pour essayer de se faire une idée, voir est-ce qu'il y a eu des crises au milieu, est-ce que ça a été régulier. Le Deccan n'a pas révélé encore tous ses secrets, loin de là.
Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verylocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, c'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview. D'accord, bah c'est passionnant. Je résiste pas à l'envie quand même de te poser la question de ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment à Hawaï avec le Kilauea sur l'île de Big Island. J'ai eu la chance moi-même il y a 2 ans de m'y rendre pour mon voyage de noces et je voulais absolument aller à Big Island pour voir le parc national des volcans. Et j'avais fait un tour en hélicoptère au-dessus du Kilauea et c'est vrai que j'avais vu un petit mètre carré de lave. J'étais un petit peu déçu et je crois 2 mois après à peine, la lave a commencé à couler vers l'océan. Faire des espèces de fontaines dans l'océan absolument magnifiques. Ça s'était un petit peu calmé après, je crois. Et là, depuis quoi? Depuis un mois, c'est la pure folie ce qui se passe à Hawaï en ce moment. Explique-nous un petit peu ce qui se passe au Kilauea, parce que c'est majestueux à voir, mais je pense qu'au niveau scientifique aussi, ça va être assez, assez fabuleux.
Alors, Kilauea, donc dans Big Island à Hawaï, hein, c'est un des volcans les plus actifs de la planète. Il fait une éruption quasi continue depuis le 3 janvier 1983. Alors avec des phases importantes, des phases au contraire plus calmes, avec des lacs de lave qui se succèdent, qui se vidangent, qui se purgent, qui arrivent dans l'océan, qui s'arrêtent. Donc moi je suis allé 3 fois à Hawaï, 3 fois c'était différent. Donc c'est vrai qu'il y a eu des lacs de lave successifs. Moi j'avais vu celui du Pu'o, il y a eu celui du Kapaiana, je crois. Et puis récemment il y avait celui de l'Alemaumao qui était près du centre volcanologique, hein, du Jarar Museum. Donc ce lac de lave qui avait été actif dans les années 1820 par là, on raconte que c'était un lieu de promenade pour les gentils hommes en redingote et avec les dames en belles robes, avec leurs chapeaux. Ils allaient se promener au bord du lac de lave. Ce lac de lave était réapparu et il montait. Il était quasiment sous les lèvres de... Il était à des profondeurs d'une vingtaine de mètres, prêt à déborder parfois. Donc la lave était là. Et depuis le 3 mai 2018, donc, hein, ça fait donc maintenant aujourd'hui, enfin presque 2 mois aujourd'hui, eh bien, un changement complet de logique, à savoir que ce lac de lave est en train a commencé à descendre, à s'enfoncer, et puis à s'effondrer. Du coup, en s'enfonçant, le cratère n'était plus maintenu, donc il s'effondre lui-même, les lèvres du cratère s'effondraient. Donc actuellement, on craint même que l'observatoire et le muséum soient détruits. Et cette lave, en fait, a commencé à migrer sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et ça a été suivi par séisme. Et en fait, à un moment donné, donc vers le mois de début mai, fin avril, début mai, plein de séismes, beaucoup plus loin, à une quarantaine de kilomètres à l'est du centre du volcan, hein, qui est le Halemaumau. Et le 3 mai, commence à s'ouvrir une première fissure. Puis après une deuxième, qui crache des fontaines de lave, ça s'arrête, ça reprend. Donc il y a eu une vingtaine de fissures de suite qui faisaient chacune des centaines de mètres de long. Au total, ça fait plusieurs kilomètres de long, qu'on commençait à vomir de la lave et malheureusement à détruire des maisons. Hein, alors, cette logique, on continue, elle s'est bien sûr maintenant stabilisée, à savoir qu'il n'y a plus qu'une grosse fissure, c'est la fissure numéro 8, qui produit. Donc, la fontaine de lave, on commence à édifier une sorte de petit cône, on appelle un spatter cône, qui fait 55 mètres de haut. Donc, les fontaines de lave dépassent à peine le cône, mais alimentent une coulée formidable qui va vers l'océan. Donc, il y a plusieurs entrées d'océan, parfois sur un front de 3 km. Et au passage, recouvre plein de maisons. Alors, parfois, cette coulée est canalisée. Donc, on va dire que ça va dans l'océan, c'est le moindre mal. Mais, parfois, les bordures se déchirent et la coulée part latéralement vers d'autres maisons. Donc, actuellement, on en est à pas loin entre 600 et 700 maisons qui ont été détruites. Donc, des gens qui, bien sûr, ont tout perdu. Mais là encore, il faut comprendre que les gens se sont sauvés. Il n'y a pas de victimes. Hein, voilà. Donc, c'est complexe. Donc, c'est vrai qu'on peut survoler en hélicoptère. Bien sûr, les responsables du géologue qui surveille ont fermé la zone parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'imprudence, que des gens aillent se blesser. Puis également, il y a beaucoup de gaz qui sont produits. Il y a des explosions. Il y a ce qu'on appelle des cheveux de pêlée. C'est-à-dire, en fait, c'est du verre étiré qui est très coupant pour le nez, pour les yeux. Donc, voilà, d'une sorte de fog, de smog, d'un mélange de poussière. Donc c'est assez négatif, hein, donc c'est dangereux. Donc le spectacle, effectivement, vu du ciel, est magnifique, vu de l'océan aussi. Mais c'est vrai que tout est en furie. Puis bon, on peut pas ne pas penser à tous ces gens. Puis donc il y a quand même des véritables communes qui sont recouvertes de coulées. Puis là, par contre, ça peut encore durer. Alors ce genre d'éruption, il y a certaines qui ont duré un mois, d'autres qui ont duré deux mois, d'autres qui ont duré plus. C'est vrai que ça fait déjà deux mois que ça dure. Donc on pourrait se dire que ça pourrait commencer à se vidanger. Mais comme au fur et à mesure, il y a toujours une déflation au sommet, à savoir que la lave s'enfonce au sommet, c'est un peu comme si un château d'eau se vide et sort latéralement. Donc il y a une réserve de magma très importante, on a du mal à quantifier, qui sort latéralement. Ça veut durer encore des semaines comme ça. On n'a pas de règle, ça peut s'arrêter demain. Hein, c'est effectivement, mais c'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs dizaines d'années.
Donc c'est une éruption vraiment, vraiment intéressante à suivre. Alors c'est vrai que tu as cité, les éruptions de ce type, c'est un dilemme entre le désespoir, le drame pour les habitants, mais aussi le spectacle. Donc il y a une dualité qui est un peu étrange là-dessus, parce que c'est, pour le volcanologue que tu es, je pense que c'est un spectacle fantastique, mais pour les gens qui habitent là-bas, c'est vrai que ça peut être assez dramatique. Donc il ne faut quand même pas le perdre de vue. En tout cas, si vous voulez voir les images, je vous invite vraiment à aller sur YouTube. Si vous tapez Paradise Helicopter, qui est la compagnie qui fait beaucoup d'images aériennes, et puis Hawaï, vous verrez des images de cette éruption qui sont très, très, très impressionnantes. Et écoute, Jacques-Marie, ça fait un beau programme tout ça. On a parlé de beaucoup de choses. Avant de passer quelques minutes à parler d'où on peut te retrouver, que ce soit sur Internet, dans les livres, etc., j'aimerais poser une dernière question par rapport au changement climatique dont on parle quasiment au quotidien aujourd'hui, par rapport aux activités humaines et sur leur éventuel impact sur les volcans. Alors, je ne sais pas si on peut, nous, à notre échelle, impacter négativement ce qui se passe dans les volcans, mais je sais que, par exemple, il y a des hommes qui ont déclenché des volcans de boue en Indonésie, donc il y a des choses qui se passent. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui si l'impact de l'homme, notamment avec ce changement climatique, peut avoir des conséquences négatives sur la volcanologie, ou alors pas du tout? Voilà, c'est ça la question.
Alors c'est vrai que c'est des questions multiples, tout ça. D'abord, l'idée forte, on l'a évoqué au cours de l'émission, c'est qu'un volcan, une éruption importante, ne réchauffe pas, refroidit. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi? On l'a dit, donc parce que les particules filtrent le soleil, donc il y a moins de chaleur qui arrive. Donc les grosses éruptions ont été suivies par des refroidissements, des hivers volcaniques. Donc on peut dire que ça peut être 3 dixièmes de degré au Pinatubo, mais des éruptions comme celle de Yellowstone, il y a 640 000 ans, ont probablement fait baisser l'hémisphère nord de 10 à 15 degrés. Donc une catastrophe écologique. Peut-être faut imaginer que les villes de Hambourg et d'Anvers, enfin, les lieux de ces villes-là étaient prises dans la glace. Voilà, donc on va dire, écoutez, c'est pas si mal, puisqu'il y a un réchauffement climatique, le volcan, lui, fait l'inverse, donc c'est tout bénef. Alors, c'est pas si simple, parce qu'un volcan, c'est pas régulier. C'est une éruption de ce type-là tous les quelques siècles ou tous les quelques millénaires. Donc, c'est d'un seul coup, on perd 15 degrés, puis ça reprend, donc c'est pas ce que souhaite l'humanité, c'est la régularité, c'est d'avoir un climat qui soit stable, pour pouvoir faire des constructions, qu'il n'y ait pas des cyclones ou qu'il n'y ait pas des tsunamis. Enfin voilà, donc c'est pas une immense éruption qui fera perdre 15 degrés localement qui est une solution. Puis, en plus, on ne la domine pas. Et effectivement, on s'était dit, est-ce que les activités humaines sont plus importantes ou pas que le volcanisme, on va dire. Parce que, on va dire, si on fait moins que les volcans, après tout, on ne va pas se culpabiliser si les volcans, eux, savent ce qu'ils font, entre guillemets, et si on fait moins. Alors, justement, les calculs montrent que les humains sont en train de dépasser ce que font les volcans. les conséquences de l'activité humaine, alors c'est difficile de faire un pourcentage, mais en tout cas, sont au-delà de ce que font les volcans. Donc peut-être qu'ils nous donnent un message. On dit, les volcans, ben, nous, on sait ce qu'on fait, on fait partie de la Terre, on est naturel. Bon, ce qu'on fait, c'est peut-être catastrophique pour vous, mais c'est normal pour nous. Par contre, vous êtes aux apprentis sorciers, donc faites attention à ce que vous faites. Donc ça, c'est un premier élément. Alors maintenant, peut-on agir, nous, sur les volcans? On va dire non. Et on va dire, quelque part, est-ce que c'est heureusement ou pas, j'en sais rien. Mais même, vous voyez, à Hawaï, on ne peut pas arrêter une coulée de lave parce qu'elle est trop forte. Alors quand c'est une mini coulée de lave qui va menacer une maison, on peut effectivement, avec un bulldozer, la détourner un peu. Mais on sauve une maison, c'est très important, mais ce n'est pas à grande échelle. Et une éruption explosive type Pinatubo ou type Tambora, qui fait 7 millions de bombes atomiques d'Hiroshima, est l'équivalent, on ne va pas l'arrêter. Donc, en fait, non, les volcans, pour l'instant, vivent leur vie, ils sont au-dessus de nous. Par contre, pourra-t-on un jour domestiquer l'énergie de la Terre et ses catastrophes? Pourquoi pas? Il y a plus de 100 ans, il y avait un génie qui s'appelait Jules Verne, qui avait écrit des livres dont beaucoup se sont réalisés. Donc, si on joue les Jules Verne d'aujourd'hui, pourrait-on arrêter une éruption? Pourrait-on arrêter un séisme? C'est pas aberrant, on y pense, on y réfléchit. Peut-être que dans des grandes failles, comme celle de Saint-Andréas à San Francisco, comme la faille anatolienne en Turquie, peut-être qu'en les lubrifiant par des produits, ou plutôt en l'idée de descendre des explosifs régulièrement pour les remettre à niveau, on pourrait, au lieu d'avoir un séisme catastrophique tous les siècles, en faire un plus petit tous les 10 ans. Mais on saurait quand. C'est l'avantage, c'est de dire aux gens, voilà, il y a un séisme qui est prévu tel jour, telle date, vous partez, vous revenez. Pour un volcan, pareil. C'est vrai que le volcan de Yellowstone qui menace peut-être un jour de revenir, si on pouvait déclencher une éruption moins importante, mais à date fixe, ça serait important. Alors bien sûr, c'est pas facile à prendre comme décision, parce que c'est aussi jouer les apprentis sorciers. Est-ce qu'en déclenchant une petite éruption, on ne va pas en déclencher une grande? Mais on va dire, c'est l'évolution normale pour l'humain d'y penser. Alors c'est vrai, est-ce qu'un jour, si un jour l'humain domestique les forces de la nature, qu'elles soient internes ou externes, c'est-à-dire à savoir les volcans, les séismes, également les cyclones, les vents, le soleil et tout ça, est-ce que c'est à souhaiter ou pas? J'en sais rien, mais ça effectivement, chacun peut avoir son idée. En tout cas, il faut le faire quand même avec un minimum de respect pour notre planète.
Ah, tout à fait. Le passé des volcans est passionnant, mais le futur va certainement l'être tout autant avec tout ce que tu as évoqué. Mais c'est vrai que c'est une question qui me paraissait importante parce que on a un impact et il faut savoir le mesurer et le comprendre. Écoute, ça fait une très belle émission. Je suis ravi de tout ce qu'on a pu discuter ensemble aujourd'hui. J'aimerais quand même qu'on passe 2-3 minutes pour dire aux auditeurs où c'est qu'on peut te retrouver et te suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses à ton sujet qui sont disponibles. D'abord, il y a ce blog Volcanmania que moi je suis depuis pas mal d'années maintenant et que vraiment je recommande à tout le monde de lire, puisqu'il y a beaucoup d'articles que tu postes très régulièrement. Tous les quelques jours, je crois que tu postes un petit article. Alors c'est varié, ça va de l'analyse et des commentaires vers des éruptions qui sont en cours. Parfois ça nous fait découvrir des nouveaux volcans, des volcans que les gens connaissent moins. Je crois que récemment tu as parlé de volcans de boue au Turkménistan. Moi j'avais aucune idée qu'il y avait des volcans de boue au Turkménistan, donc c'est vraiment intéressant. D'autres phénomènes aussi méconnus. On peut aussi lire des réflexions que tu mènes par rapport à la science de la volcanologie, bien sûr, mais parfois à d'autres sujets. Et puis découvrir des livres que tu recommandes. C'est vraiment très complet et je recommande vraiment aux gens de le suivre. Et ce qui est bien, c'est que c'est le point central aussi de tout ce que tu fais, puisque tu parles de tes interventions dans les médias. Donc quand tu passes à la radio, à la télé, en général, tu mets un lien ou vers le replay. Donc c'est intéressant pour les gens, pour qu'ils puissent t'écouter ou te voir. Et tu parles de tes livres. Et j'aimerais aussi qu'on parle aujourd'hui de tes livres, parce que tu as fait beaucoup de publications. On ne va pas toutes les citer, mais peut-être le dernier livre en date, qui je crois est Volcanologue, si je ne me trompe pas, pour susciter aussi des vocations. Alors parle-nous en deux mots de ce livre Volcanologue qui est paru aux éditions L'Harmattan et de ce que tu y racontes.
Oui, je voulais rebondir sur ce blog qui s'appelle Volcanmania, donc c'est un clavier un peu à Starmania. Alors c'est vrai que je m'interdis rien, c'est-à-dire que je raconte un peu mes humeurs, qui sont des bonnes humeurs. Je fais jamais de coup de gueule, c'est pas l'esprit du tout du blog, c'est un blog de bonne humeur. Alors je raconte effectivement les nouvelles volcanologiques, mais ça peut être aussi effectivement si j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, pour je suis allé voir une compétition d'athlétisme, j'ai mis quelques photos. J'avais suivi une greffe, une opération cardiaque, j'en avais également parlé. Donc, des gens qui m'épatent, j'ai plaisir à le dire dans ce blog. C'est mes coups de cœur, voilà. Et puis également, c'est toujours assez court, mais informatif. Donc souvent, c'est une photo, mais avec une petite légende. Et puis effectivement, les relations avec les médias, donc notamment ton émission, elle sera relayée sur mon blog. Mmh. C'est normal parce que tout le monde ne connaît pas, ne saisit pas les routes de l'Asie en métropole. C'est dommage. Il devrait. Ce que tu dis pour mon blog, c'est vrai pour ton émission.
Merci.
Mais ça sera donc je le relayerai avec un clin d'œil. On apprendra tout ça. Oui, donc mon livre, je fais à peu près en moyenne un livre par an depuis une vingtaine d'années. Donc j'en ai fait un peu plus d'une vingtaine. Et le dernier s'appelle Volcanologue aux éditions L'Harmattan. Il a quelques mois. Eh ben, je raconte ma vie de volcanologue, donc il s'adresse à tous, ceux qui ne connaissent pas ce métier, notamment aux plus jeunes qui voudraient devenir volcanologue, mais qui connaissent que l'aspect, on va dire, un peu brillant, people du métier. On va dire pour des gens, un volcanologue, c'est quelqu'un qui est un peu toujours en vacances, donc toujours en voyage, on va dire, donc qui est toujours bronzé. Dès qu'il y a une éruption, il y va, il fait des photos, il prend un hélicoptère, et puis revient, il passe à la télé, quoi. Alors, c'est pas faux, c'est en partie vrai, mais il y a toute une partie qui est pas ça, c'est quand on revient, on ramène des échantillons, on les analyse, on fait des articles en anglais, j'enseigne aussi, on a fait passer des examens, je suis professeur d'université à l'université Paris-Sud-Orsay, j'ai beaucoup de plaisir à y être, bon, un grand honneur d'y être, donc c'est assez complexe, donc je raconte, je veux pas dire mes joies et mes peines, parce que c'est pas de peine, mais c'est mes joies et peut-être certaines difficultés, notamment sur le terrain tout se passe pas toujours comme on veut, également effectivement des périodes plus austères en laboratoire ou en rédaction, quand il faut écrire une note en anglais sur ce qu'on a vu, parfois on hésite, on rate, on biffe, on revient, donc les moments de rédaction sont bien sûr très fécondes parce qu'on progresse beaucoup sur ce qu'on comprend, mais parfois on peut douter, donc c'est pas facile. Le soir, des fois, on n'est pas content, on n'a pas fait ce qu'on voulait, puis des fois, quand on est normal, ça se passe mieux. Donc je raconte tout ça, je raconte également mes rencontres, bien sûr, avec Nicolas Hulot, avec qui j'ai fait 4 émissions au Choya, avec Yann Arthus Bertrand, qui préface le livre d'ailleurs. Ça peut être des ministres qui m'ont fait l'honneur de demander de les accompagner pour défendre le climat, comme je pense à Ségolène Royal, ministre de l'écologie, Delphine Bateau, effectivement des gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai eu plaisir, Raymond Depardon, avec qui j'ai fait le spot Volvic, Marie-Odile Monchicourt, enfin, voilà donc des gens avec qui j'ai eu plaisir, des aventuriers, Jean-Louis Etienne ou d'autres, Michel Siffre également. Voilà, donc c'est un livre autobiographique, mais je raconte un peu mon enfance, ce que j'étais raconté, effectivement. Je commence avec mon grand-père à ramasser des fossiles, puis mes études, puis également toute ma carrière, puis je me rends compte que c'est passé vite, et à la fin, j'en suis à le 1er octobre dernier, j'avais fêté mes 40 ans de maison. Et j'en étais à ma 100e expédition. Voilà, donc c'est des chiffres, mais bien sûr, suite en course, depuis j'en ai fait d'autres, et puis je continue, voilà, donc les volcans, ça oblige aussi à rester jeune, parce que face à un volcan, on est toujours jeune, hein, enfin, quoi qu'il y ait des laves plus jeunes que nous, je le dis aussi aux élèves, mais c'est vrai que la géologie, c'est une aventure, et la volcanologie aussi, donc j'ai envie de faire durer le plus longtemps possible.
Alors, c'est passionnant, un très beau programme pour ce livre, pour ce blog, pour tout ce que tu fais. Et puis, tu as parlé de voyage, mais voilà, tu accompagnes aussi des gens qui aimeraient aller sur place, comprendre les phénomènes volcaniques. Alors, tu as cité tout à l'heure, je crois, l'agence avec qui tu travailles, tu pourras le reciter plus longtemps maintenant, mais parle-nous aussi de ce que tu fais dans ces voyages, parce que je crois que plusieurs fois par an, ou au moins une fois par an, tu as un voyage d'accompagnement, c'est ça ?
Oui, alors il apparaît aussi, et ça c'est général, que les gens, notamment ceux qui nous écoutent, ont plus en plus envie de voyager de façon originale et intelligente. Donc c'est vrai que tout est bien, il n'y a pas de règles, on peut aussi bien, moi-même j'aime bien aussi faire du vélo, enfin me balader à pied, tout ça, toutes les vacances sont bien, mais c'est vrai que d'aller découvrir des régions un peu inconnues avec des scientifiques, c'est peut être passionnant, donc c'est vrai que depuis plus de vingtaine d'années, j'ai collaboré avec différentes associations ou différentes agences pour emmener des groupes de passionnés, donc c'est des groupes d'environ d'une quinzaine de personnes, et on va à des endroits, donc on est allé avec différents organismes au Japon, en Nouvelle-Zélande, à La Réunion, enfin à plein d'endroits, en Chine, enfin ailleurs. Donc c'est vrai qu'actuellement, j'encadre, alors ça dépend, il y a des années c'est seulement un voyage, des années c'est 3 voyages, ça dépend des opportunités, ce qui s'y passe, ça peut être s'il y a des éruptions qui se déclenchent, on peut y aller aussi, on avait fait ça au Sinaboum par exemple. Donc je fais ça avec une association qui s'appelle Atlas, qui est sise en partie dans la commune où j'habite, à Boulogne-Billancourt, là. Avec Atlas, on fait un voyage tous les 2 ans. Donc on a fait l'an passé le Japon, Aikido, le nord du Japon, on avait fait le sud une année précédente. Et notre prochain voyage, c'est en 2019, c'est en Scandinavie. On prévoit d'aller en Norvège, la deuxième quinzaine de juillet en 2019, voilà, en Scandinavie. Alors ça sera de la géologie, voir les fjords, voir des très vieilles roches. Et puis également, je collabore assez étroitement avec 80 jours voyage, hein, donc c'est une agence lyonnaise. Bon, le gérant est un ami, hein, donc en fonction de l'activité, on fait des voyages ensemble, donc on en a fait une douzaine déjà. Le dernier qu'on a fait, c'est le Turkménistan dont tu as parlé justement, on était à Pâques dernier. Là, on part en Arménie en juillet, Et notre prochain voyage ensemble, c'est le Salvador en novembre 2018. Et on programme également d'aller en juin 2019 en Patagonie, c'est-à-dire en Argentine et au Chili, pour faire de la géologie, mais également pour voir une éclipse totale de soleil. Voilà, donc si ça intéresse des gens, bah, ils vont sur le site 80 jours voyage, ou sur mon blog Volcan Mania, où je relate tout ça. Et les gens qui viennent deviennent des amis. Alors bien sûr, il y a des gens qui reviennent, mais il y a des nouveaux qui viennent aussi. Et ce qui est très sympa, enfin notre récompense, c'est quand des gens sont venus qui reviennent, c'est qu'ils sont contents. Mmh. Puis ça devient des amis. Voilà, donc c'est très amical, très convivial. Alors c'est pas des cours, j'assomme pas les gens de connaissance. Hein. On profite ensemble, on fait nos photos, on regarde, on profite, on se balade. Puis de temps en temps, je fais une petite mise au point. Puis le soir, je fais un petit briefing, mais de quelques minutes, puis je fais circuler les documents, puis ceux qui veulent en savoir plus me demandent plus, ceux qui au contraire veulent être tranquilles, ben ils sont tranquilles. Voilà, on est là pour se faire plaisir.
C'est super, c'est une forme de voyage qui est vraiment intelligente et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Et voilà, c'est ouvert à tous, hein. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les liens de toute façon de tout ça, hein, le blog, le lien vers l'agence de voyage que tu as cité, l'association, les livres également pour pouvoir les acheter, sur le site, sur lesroutesdelasie.com. En tout cas, Jacques Méry, c'était un vrai plaisir d'être ici chez toi pour parler de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu dans cette discussion et qui devrait intéresser, je l'espère, nos auditeurs. Écoute, je te dis, je peux pas te dire plus que merci parce que c'était vraiment un très grand plaisir et je te laisse le mot de la fin pour conclure.
Ben pour moi aussi, c'était un plaisir de parler des volcans en général, des volcans d'Asie en particulier. Un grand bonjour à tous les auditeurs. Vive les routes de l'Asie et puis rendez-vous à plus tard. Voilà, puis sinon, aussi un clin d'œil, c'est qu'on apprend aujourd'hui que nos volcans de la chaîne des Puys viennent d'être classés à l'UNESCO, donc c'est un grand plaisir, un grand honneur, une grande joie, parce que c'était un dossier que l'équipe défendait, que je soutenais bien sûr de toutes mes forces, mais que l'équipe défendait depuis très longtemps, depuis plusieurs années, et c'est une récompense de tous ces efforts. Donc bravo à l'équipe, bravo aux volcans de la chaîne des Puys, puis voilà, donc ils sont maintenant mondialement, encore plus mondialement connus.
Eh ben c'est une magnifique nouvelle, et ça tombe bien, le jour où on enregistre l'émission, c'est une très belle nouvelle. Merci beaucoup Jacques-Marie, à bientôt.
Au revoir.
Nous voilà au bout de ce double épisode en compagnie de Jacques-Marie Bardenzeff, que je remercie infiniment pour sa disponibilité, le partage de sa connaissance dont il me fait l'honneur à mon micro, et puis tout simplement son immense gentillesse. Jacques-Marie, j'ai eu un énorme plaisir à t'interviewer à nouveau sur les routes de l'Asie, et je te donne rendez-vous, pourquoi pas, pour une prochaine interview à l'avenir. Si ce contenu vous a plu, et je n'en doute pas, je vous invite à aller suivre le blog de Jacques-Marie, très intéressant, avec des articles très réguliers sur les activités volcaniques, mais pas que. Et où que ce soit dans le monde, bien sûr, on a ici surtout parlé d'Asie, mais il ne faut pas oublier que d'incroyables volcans se trouvent un peu partout sur la planète, que ce soit à Hawaï, en Islande, en Amérique du Sud, en Afrique, ou ailleurs en Europe, comme en Italie par exemple, bref. C'est un sujet passionnant et sans fin. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous procurer les ouvrages de Jacques-Marie. Tous les liens sont à retrouver sur mon site, sur lesroutesdelasie.com/60. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à répandre votre enthousiasme autour de vous en partageant le podcast avec vos proches. Cela m'aide à le développer, tout comme les commentaires sur la page iTunes qui me font toujours très plaisir également. Aujourd'hui, j'aimerais citer celui de Laurent JPN qui a mis 5 étoiles en disant « Voyage immobile et formidable. Merci pour ces moments de voyage, les écouteurs rivés sur les oreilles alors que le paysage défile. Magie de la radio, magie de la voix. Certains moments ont fait remonter des souvenirs de voyage d'il y a pas mal d'années maintenant. D'autres moments me donnent envie de prendre un sac de voyage et repartir. Bref, merci pour ces instants. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous croiser. Je travaille actuellement au Laos et découvre ce pays et ceux autour sont autant de promesses de voyages futurs. Formidable instant, continuez. Et puis on sent la passion qui anime vos interlocuteurs, Laurent. » Fin de ce long commentaire. Laurent, un grand merci à toi pour tous ces gentils mots. J'y penserai lors d'un prochain voyage au Laos. Et toi de même, n'hésite pas à me contacter si tu passes un jour par Singapour. Et puis, une autre façon extraordinaire de m'aider, c'est de contribuer à ma campagne de financement participatif sur ma page Tipeee en faisant un don qui peut commencer aussi bas que 1 euro par épisode, don que j'utiliserai pour améliorer toujours un peu plus la régularité et la qualité de l'émission. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Gérard qui a tout récemment rejoint mon équipe de tipeurs et puis un grand merci d'avance à vous qui m'écoutez et peut-être, je l'espère, aller faire le pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.